Les enfants sont heureux, sont avec leur père.
Les oiseaux chantent. Et sont-tu t'es allé reconduire puis t'es revenu?
Ben, on
était. Ils faisaient ça à deux voitures.
Mon chum est venu les rejoindre. Puis là, puis quand on est dans... Mais nous autres, on aime beaucoup la base, Will. On est vraiment bien. Hein?
Déménage ici.
Ben, je l'ai dit à ma fille, puis elle veut pas. Ils sont. Les deux. Les enfants sont bien à Beauport.
OK.
T'sais, ils ont leur réseau d'amis. Ils ont, t'sais, c'est des banlieusards. Qu'est-ce que je te dis?
Rimouski. J'aime vraiment travailler là. Mais c'est juste une grosse banlieue.
Ben, c'est ça.
Ça me fait mal. J'ai mal à mon territoire. Parlant de territoire! Tout de suite.
Tu vas commencer ton balado avec ça.
Ben, en fait, ça va sûrement faire partie. C'est trop bon pour qu'on l'enlève, mais... Mais oui, ça me fait mal au territoire quand je vois qu'on développe de même, puis que c'est pas dense du tout, puis que on c'est juste des c'est comme Beauport, là, mais c'est juste des quartiers avec des espèces de gigantesques maisons toutes pareilles, unifamiliales, puis ou en tout cas parfois genre des espèces de semi-détachés, puis ils font ça à l'infini là, toute la beauté de la ville, l'accès au fleuve, tout ça est perdu, puis aucun urbanisme, aucun service. En tout cas.
Mais je suis d'accord avec toi.
Ouais.
Mais il y a une petite. Y a une
mais
petite
c'est ça, ça doit
marchande.
Finir par se développer. Là,
non, il y a une
mais...
petite rue marchande que ouais. Je trouvais sympathique là, derrière le conservatoire. Là.
Ah, puis tu parles à Rimouski, toi. Rimouski. Ok, je pensais que tu parlais. Oui, ben ça, c'est le centre-ville. Le centre-ville est bien.
Ben moi, c'est ça.
C'est là que je vais vivre.
Là, non, mais tu sais, c'est pas complètement désespéré. Là.
Non, c'est ça.
Moi, j'ai un petit côté.
Je pensais que tu voulais dire à Beauport. Mais il y a sûrement
des
centres-villes.
Il y a un centre-ville à Beauport. Il y a des centres. En fait, Québec est une ville de villes fusionnées. Fait qu'il y a un mini centre-ville à Sillery.
Historique, tu veux dire.
Oui, c'est ça. Il y a un mini centre-ville à Sillery.
Avec
la
une église,
puis
ouais.
C'est ça, puis il y en a, tu sais, t'en as à Saint-Sacrement, puis t'en as dans Montcalm, puis t'en as, tu sais, je veux dire, on se promène, puis on passe de mini-centre-ville à d'autres, c'est tout petit, mais tu sais, t'as chacun des rues...
Ben, c'est qu'ici, t'as pas besoin de char pour te rendre d'un centre-ville à l'autre, tu sais, comme...
Non, c'est ça.
Là, puis pour les gens dans le noir, mais on est dans Saint-Jean-Baptiste, là, ici, mais c'est ça, c'est ça qui... Parce que il y a plein de beaux secteurs au Bas-Saint-Laurent, tu sais, je veux dire... Rimouski, Chicobic, mais en fait, c'est magnifique ces deux, tu sais, mais en tout cas. Ben, puis à l'intérieur de Rimouski aussi, il y a plusieurs centres-villes. Ça les gens ne le savent pas, mais Nazareth, Sacré-Cœur, tu
pas vraiment. Non, ben je suis allé faire de la musique de temps en temps, là, fait que tu vois que...
Mais tu dis quand même tu connais le conservatoire.
Hein? Oui, parce que je suis allé faire de la musique de temps en temps.
Mais t'as pas... Pour une période prolongée été là-bas, OK.
Non, mais par contre... J'ai vécu au Lac-Saint-Jean.
Oui, tu as été directrice de santé publique.
Oui, pas longtemps. Mais mon chum est de Roberval.
Est-ce qu'il a connu le château de Roberval?
Oui, on connaît le château parce que son père avait le garage en face du château Roberval.
Qui a brûlé dans quelle année?
Non, pas celui, non, le nouveau.
Oui, non.
Le nouveau.
Ouais, il doit pas être
il
aussi...
Il est pas aussi beau. Non, on n'a pas connu le château.
Pour avoir vu des photos en ligne, ou en tout cas de ce qui semblait être une photo, je ne sais pas si c'était le vrai.
Non,
mais...
c'est ça. Non, moi, on n'a pas connu ça. Eux étaient de Saint-Prime, puis en arrière de Roberval.
Saint-Prime?
Ben oui.
Mon Dieu!
Non, c'est... Puis Mastoyache, on connaît bien. Puis le meilleur ami de mon chum est un gars de Mastoyache.
Inou, OK.
Oui, Inou, tout à fait. Fait qu'on est vraiment... J'étais vraiment chez moi, mais 100 ans plus tard, là.
ouais. Ben, c'est pas... La temporalité est pas tout le temps très claire, là, mais on comprend... Bon, mon Dieu. Alors, OK. Salut, Isabelle! On parle de Cocum aujourd'hui! oui, c'est correct. Le podcast est tout le temps déstructuré, puis c'est comme ça qu'on l'aime. Mais oui, fait que tu disais Mastoyache, puis ce que j'allais dire avant que je me dise qu'il fallait que je t'introduise. C'est pas grave!
Merci pour ce blanc d'idée. Non, mais c'est juste dire que Pointe Bleue, à l'époque, ça s'appelait Pointe Bleue.
Saint-Prime, oui.
Non, mais...
Ah, oui.
Tu sais, ça a été, avant, ça a été Mastoyage, ça a été nommé Pointe Bleue, puis après ça, c'est redevenu Mastoyage.
Fait
que j'ai connu cette transition-là, tu sais, avec...
Ah, je parle de la temporalité du livre, c'est ça.
C'est ça, la temporalité. Ouais, non, c'est pas clair.
J'aurais pensé que c'était plus 19e siècle, puis transition vers le 20e, là, mais...
Ouais, mais pas si tard.
Parce que c'est l'arrière-grand-mère de... Ce qu'on comprend, c'est que c'est l'arrière-grand-mère de Michel Jean.
Ouais, mais... c'est ça, mais tu sais, je connais les lieux, je connais les espaces, je connais le Piekogami, tu sais, on connaît ça, tu sais, j'ai...
Tu vivais à...
Ben moi, je vivais à Alma, mais mon chum vient de Roberval. Puis on a, tu sais, on avait un chalet à Saint-Prime. Puis mon beau-frère vit à l'entrée du village de Mastoyache. Et donc, tu sais, il y a tout... c'est mon univers. Donc, il y a une appartenance particulière. J'avais juste hâte de te le raconter, oui. Ça, parce qu'on n'a pas le droit de se parler des livres qu'on lit jamais avant la balado.
Très sévère balado. Sur Marie.
Fait que c'est ça, fait que j'avais juste hâte de te raconter balado, ça. Ouais. Le balado, il va me corriger tout le long. Mais tout ça pour dire que j'étais comme chez moi, mais quand j'ai lu le livre, j'avais aussi ça, tu sais, la rivière Péribonka, ben oui, tu sais, toute la question de l'embouchure, toute la question de la... Tu sais, puis moi, j'ai fait trois urgences, là, autour du lac. Là.
Quand t'étais médecin...
Quand j'étais médecin. Mais j'ai commencé...
Médecin de famille, oui.
Ouais, j'ai commencé comme médecin de famille à Alma, mais tu sais, j'allais faire du dépannage.
Puis quand t'étais directrice de santé publique, c'était après avoir terminé?
C'était 4 ans plus tard, là.
Mais tu as été médecin de famille, tu es retourné faire ta spécialité.
Puis après ça, je suis retournée un an.
Comme directrice de santé publique.
Oui, ben en fait, comme médecin spécialiste. Puis la journée où j'ai commencé, on m'a dit « Tu prends la direction par intérim. » Bravo. Ça a été ça.
Félicitations pour ton diplôme. tu parlais de l'entrée en pratique qui est difficile, mais c'est sûr que si on commence comme directrice de santé publique, c'est sûr que ça rajoute un petit niveau de difficulté.
Avec un bébé que j'allaitais.
Oui, oui, oui. C'est ça. Fait que Cocoum, publié en 2019.
Oui, pas si longtemps.
Chez Libre Expression. Mais oui, c'est ça. Mais il n'y a pas longtemps, mais en même temps, j'étais comme... Ben, je n'avais full entendu parler parce que ça a été un hit médiatique, puis tout le monde en a entendu parler pas mal.
C'est une lecture obligatoire maintenant dans le programme collégial, là. Puis même au secondaire, moi, ma fille...
Ah, c'est le fun!
Moi, c'est ça, j'ai mes deux plus vieux qui l'ont lu au cégep, mais ma plus jeune l'a lu cette année. Puis là, c'est drôle parce que j'en parlais, puis je me préparais, puis là, ma fille a dit « Non, c'est pas ça, maman, là, tu mélanges les histoires, là. C'est pas ça, maman, tu mélanges
avec
les chimique, histoires. »
puis c'est bref, les autres publications.
Fait que c'est ça, fait que j'ai trois experts à la maison de Cocoum, fait que, tu sais, là, j'ai vraiment mon syndrome d'imposteur parce que mes enfants l'ont analysé,
ils
l'ont
décodé. Ils auraient pu venir participer.
Ah, j'aurais tellement dû.
On a 4 micros, là.
Désolé, mes enfants.
Ils écouteront. Épisode, ils pourront dire s'ils sont d'accord ou non avec nous.
Ah ben ma fille n'était pas toujours d'accord avec moi cette semaine.
Attends, on a parlé déjà. Ok, toi, t'as déjà pré-enregistré le podcast avec d'autres personnes. Là.
Mais j'aime ça en parler, puis j'ai pas le droit de t'en parler avant le podcast.
Comme si j'envoyais la police chez vous, tu sais, pour te museler. Là.
Non, tu mets fin aux échanges assez
vite. Non, mais je te le dis, là, on peut pas en parler. Il faut que ça soit authentique quand on se parle au niveau de lors de l'enregistrement. OK, fait que publié par Michel Jean, qui est Inou, mais aussi accessoirement journaliste à Radio-Can. C'était pas sa première publication,
C'est pas LCN? C'est peut-être... non, mais c'est pas grave.
On va demander à Wikipédia.
C'est moi qui ai mêlé.
Michel Jean, attends, j'avais ouvert sa page tantôt.
OK, moi, pour les auditeurs, je n'ai pas la télé. Donc, ça se peut que je sois complètement dans le champ. Je fais partie de ces gens-là qui ne savent plus écouter la télé.
Mais il s'est promené entre TVA puis Radio-Canada. Il a fait les deux.
C'est probablement que quand je me suis débranchée de la télé, il était à l'autre poste. Ouais. Et peut-être que quand vous nous écouterez, il sera ailleurs.
Tout à fait.
C'est pas important.
Non. Mais bref, journaliste. C'est ça, c'est pas son premier livre. J'avais vu qu'il en avait quand même publié plusieurs. Mais moi, c'est le premier dont j'ai entendu parler là, par rapport à lui. Parce qu'il avait été... je pense qu'il avait beaucoup écrit sur le fait qu'il était envoyé spécial à l'international. Puis je pense qu'il faisait des récits de voyage en lien avec ça. Puis finalement, en 2019, paru Cocoum. Résumé, très simple, mais quand même, c'est un livre... Je pense que ça résume assez bien, là. Finalement, on raconte l'histoire. Cocoum veut dire grand-mère en langue Innu Aimum, là. Puis, finalement, on raconte l'histoire de son arrière-grand-mère, Almanda Siméon, qui a grandi, qui est une blanche, mais qu'on comprend finalement, en tout cas, bref, qui est orpheline, élevée par son oncle et sa tante, qui sont finalement pas vraiment son oncle et sa tante non plus, mais élevée à Saint-Prime, justement, pas à Pointe-Bleue, à Saint-Prime, autour de Pequakami, le lac Saint-Jean, et tombe en amour avec un... Dès l'âge de 15 ans, tombe en amour avec un jeune Innu qui passait pas loin de la terre agricole où elle a été élevée. Le mari va vivre avec lui... comment dire... en fait... adopte un mode de vie inou dans les années avant au 19e siècle là, donc avec un mode de vie traditionnel nomade qui remonte la rivière, vont chasser durant l'hiver, reviennent l'été pour vendre les peaux, vraiment là, c'est ça comme mode de vie traditionnel autochtone. Et on la suit dans le fond dans son aventure, dans sa transformation, puis c'est aussi une façon de nous accompagner dans la culture inou avec une fin qui est plutôt dans le basculement du mode de vie inou au mode de vie occidental forcé pour les peuples autochtones qui a eu lieu au Canada. Puis on raconte aussi l'histoire dans la sédentarisation, les pensionnats. Puis voilà. T'as-tu d'autres choses qui t'ont frappé dans l'histoire?
Ben, ça reste une vie idéalisée, là. Moi, je me suis posé plein de questions opérationnelles, là. Tu sais, je veux dire,
ça t'a-tu donné envie d'aller vivre à moins 40 dans un tipi?
Dans une tente, dans une tente avec plein de fourrures. Ça avait l'air quand même confortable, hein. On comprend comment le lit est fait, on comprend comment les fourrures sont étalées. Mais j'avais plein de questions en disant, oui, mais... pour avoir fait du camping d'hiver, il y a quand même des enjeux, tu sais. Puis moi, je trouvais qu'on était vraiment dans une vision idéalisée, mais sympathique, avec des traits culturels, tu sais, toute la question de, tu sais, de la non-possession, l'accroche au temps qui passe, le rapport au territoire, le rapport sur la ligne de séparation des Inuits, hein, ceux de la Côte-Nord,
ouais,
ceux...
Maliutenam, Tessamit, etc.
Mais on comprend plein de choses aussi, la disparition des espèces aussi, comment à un moment donné, tu sais, ils montent au nord, puis ça répond, tu sais, la nature change. Donc moi, ça présentait, moi, je trouvais une vision assez idéalisée, mais en même temps qui était pas, tu sais, qui était pas naïve, là, qui avec, tu sais, les transformations qui se passent, là, ceci dit, c'est vraiment quelqu'un qui embrasse la culture, puis qui l'embrasse, l'auteur aussi, ouais, là, qui embrasse cette culture en disant, voici le sens qu'elle avait.
Mais tu trouves pas que ça, justement, ça magnifiait le territoire, ça le rendait tellement... oui, idéalisé, mais aussi, je trouvais que c'était décrit avec tellement de soin qu'on se disait, mais merde, on s'y attarde jamais, finalement, à la beauté.
Je suis d'accord, puis encore là, toujours dans cette expérience, parce que les passes, il y a beaucoup de chalets aux passes.
Passes dangereuses?
Oui, les passes dangereuses, il y a des chalets
maintenant.
Mais on comprend
que ça n'existe plus.
Bien, il y a d'autres passes, clairement. Ouais. Il y a d'autres, en tout cas les locaux, mais moi je suis pas allée là, mais il y a les locaux ont des camps, ont des choses aux passes, tu sais, ils n'appelaient pas ça les passes dangereuses, t'as raison là, mais tu sais, le territoire est partagé par plein de monde maintenant, mais c'est vrai que c'est très bien décrit, c'est vrai que c'est beau, mais moi je le connais ce lac Saint-Jean-là, il est super beau. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des journées tu vois pas l'autre côté, puis si tu regardes dans le bon sens, à certains endroits il y a pas de bord, même quand il fait beau, tu sais. mais tu sais, moi je suis mariée, matchée, amoureuse d'un gars qui, pour lui, tu sais, quand on était aux Îles-de-la-Madeleine, puis le lac Saint-Jean, c'est la même affaire, tu sais, cette espèce d'étendue d'eau qui s'identifie beaucoup, puis moi, j'ai juste retrouvé l'amour du territoire que ma famille, ben le bras de mon chum partage déjà, tu sais, la fierté du lac, le sentiment de l'appartenance au territoire. Fait que pour moi, j'étais pas perdue, tu sais, on va se baigner, tu sais, il y a des belles plages dans ce coin-là, c'est super beau. Puis moi, j'ai pas senti que j'étais dans l'inconnu, puis Péribonka, c'est un des plus beaux sites, tu sais. Fait que pour moi, la description du territoire respectait ce que j'aimais du territoire, parce que c'est mauditement beau, là. Tu sais, quand je l'ai lu, puis il y a une affaire qui m'a vraiment fascinée, puis qui m'a marquée, c'est quand, tu sais, ils reviennent avec leur peau, ils vendent tout, puis là,
Le rapport à l'argent,
tu sais, puis là, ils brûlent en 3 jours, puis on leur dit, tu fais pas d'économie, tu t'achètes rien. Non, ça sert à rien, on est autosuffisant.
Ouais.
Moi, ça, c'est la passe du livre qui m'a le plus touchée, parce qu'on est en 2025, puis ce rapport à l'argent, ce rapport à notre dépendance, tout ce qui est transactionnel, j'ai vu dans ce livre-là en disant, OK, non, ça fait pas si longtemps.
Mais c'est un livre sur le sens de la vie, finalement.
Ben, c'est ça. Mais moi, c'est cette partie-là, quand ils reviennent l'été, là, puis qu'il fait beau, puis qu'il fait chaud, parce qu'ils viennent à Mastoyache au moment où, tu sais, tout est facile. Bon, il n'y a pas de mouches, puis il n'y a pas de moustiques dans leur histoire, mais tu sais... Non, mais c'est ça la vision un peu naïve que je disais, mais il y a une espèce de... Tout le monde est ensemble, tout le monde est heureux. Bon, ils boivent un petit peu, mais pas mal. Mais pas tant.
En même temps, puis après ça, bon, c'est l'histoire, c'est le récit de Michel Jean, mais il raconte vraiment que c'est au moment de la sédentarisation, puis les pensionnats, que les gens ont commencé à consommer puis à abuser.
Il y avait une fête quand ça restait
sain, en tout cas, de la façon que c'était raconté.
Puis ce rapport à l'argent, ce rapport au territoire, c'est pas tant dans sa beauté que dans le « je me laisse vivre, je me laisse porter », mais ils se sont posés des questions, ils ont vu les transformations. Il y a quand même plein de choses qui se passent avant même que la sédentarisation arrive.
Ben oui, ils voient tranquillement les fermiers qui arrivent autour du lac. Puis
le territoire change, puis leur rapport au territoire change aussi. T'sais. Ça devient plus difficile, il y a quelque chose.
Tu veux dire que la chasse est moins bonne?
Oui, la chasse est moins bonne.
Mais ça, c'est pas si clair tout le temps si c'est lié avec la...
Ben, ils se posent des questions.
Destruction faite par les Blancs. Là,
mais c'est pas dit comme ça non plus, je suis assez d'accord, mais il y a... Ben moi, je le voyais comme le rapport au territoire change. C'est peut-être des changements normaux, mais ils se questionnent, mais leur identité aussi change.
Ouais.
Puis là, on arrive avec, bang, la sédentarisation, mais il y avait déjà des questionnements, il y avait déjà des enjeux. Tu sais, c'est pas... ceci dit, ils occupaient un territoire qui est encore considéré en 2025 comme hostile. Tu sais, c'est encore, quand on est au nord du Saguenay, c'est des territoires sauvages, là, vraiment. Puis c'est encore, tu sais, pour les pilotes de brousse, c'est encore, tu sais, le mythe de la cabane au Canada, mais on est encore dans... Et il le
mais
possédait.
Mais
je
trouve pas que la façon que c'est raconté, il y a un peu... Moi, j'ai beaucoup senti la solastalgie, tu sais, la sensation de perte constante. Puis fait, oui, l'hostilité, mais en même temps... Tu sais, on parlait des passes. Pis ça, moi, je trouve qu'elle nous à travers sa grand-mère, nous raconte une époque révolue, puis un territoire perdu,
mais
magnifié.
Mais qu'il maîtrisait, ce que je voulais dire, c'est qu'il le maîtrisait, ce territoire-là.
Il ne maîtrisait pas.
Il maîtrisait, il le connaissait.
Il vivait dans un cycle qui était soutenable. Mais c'est ça, je trouvais qu'il...
Mais je pense qu'on dit la même affaire.
Oui.
C'est ça, mais...
Ben, il y avait les connaissances, les compétences pour survivre à l'intérieur.
Voilà,
mais,
c'est ça qu'on veut dire par maîtrise.
Mais je pense pas qu'il y avait un sentiment de domination, au contraire.
Non, je parlais pas de ça.
C'est tout l'inverse qui...
Ils connaissaient, puis ils faisaient corps avec le territoire, avec ses espèces, avec... Tu sais, on sent qu'ils sont en contrôle.
En symbiose.
C'est ça. Puis que Almada... est heureuse de vivre là-dedans, ça vient la chercher, ça vient la porter. Bon, des fois, elle attend longtemps en passant, là.
en fait, c'est drôle, hein, parce que moi, ce que j'ai remarqué dans le livre, c'est que le rapport au temps se modifie plus l'histoire avance, en fait. C'est qu'au début, là, il se passe comme, dans les 150 premières pages, je pense qu'il se passe genre 5 ans. Puis après ça, on nous raconte à l'intérieur de 50 pages ou moins les 80 autres dernières années de sa vie, tu sais. Puis c'est comme si l'accélération du mode de vie avec la sédentarisation et tout reflète aussi la narration de l'histoire, tu sais. Puis ça m'a comme fait, tout déboule à la fin, tu sais. Puis tout s'effondre un peu, tu sais. Puis alors qu'autrefois, c'était comme il y avait un. On sent que dans les premières pages, on nous raconte vraiment plus une espèce de vie qui suit les cycles des saisons, tu sais, puis très lentement, finalement.
Mais c'est drôle parce que moi, il a fallu que je leur lise parce que j'avais complètement oublié les 50 dernières pages.
Ah,
complètement,
ouais.
J'ai fait un... Ben oui, mais moi, j'oublie plein d'affaires.
Mais c'est parce que, me semble, c'est drôle, c'est plus l'inverse. Je trouve que c'est plus... Les 150 premières, c'est comme plus des moments de la vie en nature, tu sais,
Mais je pense que c'est
ça dont
j'avais besoin.
Ils tannent les peaux, ils vont chasser, puis ils se racontent des histoires. Puis c'est super intéressant, mais je dis juste qu'après ça, c'est comme vraiment des éléments de narration de, bon, la drave arrive, les pensionnats, elle va voir Maurice Duplessis pour faire un trottoir dans son, dans sa,
dans
pis,
son village.
Apprend le, oui, c'est ça, tu sais. Puis puis après ça, on nous raconte finalement que, bon, y a une mise en perspective avec l'histoire de Michel Jean, puis sa grand-mère, tu sais.
Mais j'avais même, parce que je l'ai relu, là, pour une fois, je l'ai relu, mais j'ai relu tout le temps.
Tu fais toujours tes devoirs. Là.
Mais ouais, mais des fois, je tourne vite les pages. Bon. Non, mais tu sais. j'invite les lecteurs à deviner dans quel ouvrage. Donc...
On n'a pas eu tant d'épisodes avec ça encore ensemble. Hey, c'est notre premier épisode. Excuse mon Dieu. Hey, on va, ça, je pense qu'à soir, les deux, on est fatigués et on sort du coq à l'âne. Mais c'est notre premier épisode post-publication du podcast.
Ben oui, félicitations.
Il l'est maintenant. Oh, ben merci, mais c'était plus.
Ben oui, bravo. Non, mais pour en revenir, tu sais, je l'ai lu.
Oui.
Je l'ai dévoré. Je l'ai aimé. Mais je ne me souvenais plus ni de l'histoire de Duplessis, ni de l'histoire. Puis. Je me suis posé la question quand je l'ai relu cette semaine, puis hey, l'histoire de Duplessis, là, quand même, tu sais, elle s'assoit dans le bureau, puis tant que je le vois pas, je pars pas pour démontrer la force de caractère d'Almada. Mais moi, j'ai complètement oublié ça.
Penses-tu que ça pourrait se faire encore, tu sais, mettons, tu vas t'asseoir dans le bureau de François
Legault? Il y en a qui font des sit-ins.
S'asseoir dans le bureau de François Legault, on a le droit de faire ça comme citoyen, mettons?
Ben, peut-être pas à l'Assemblée nationale, ouais. Parce que c'est métier dans les bureaux de comté. Là, on en a, puis tu as des équipes de comté, mais maintenant, il y a des équipes. Tu n'aurais pas l'agent administratif qui dit « Attendez, il va finir par passer. » Il y aurait quelqu'un pour prendre un rendez-vous, il y aurait quelqu'un pour t'organiser, mais je pense qu'il y a des accès qui se donnent. Là. Pour en revenir à mes idées principales, la raison, je pense, qui fait que j'ai oublié, c'est que l'histoire des pensionnats, on la connaît.
Ouais.
On la connaît, puis ce bout-là, parce qu'il y a quand même une narration de vulgarisation, même la vie en nature est assez vulgarisée, quand je disais un peu naïve, un peu, tu sais, moi j'avais des questions opérationnelles, mais tu sais, elle est romancée, mais elle est aussi, tu sais, je pense que c'est un livre qui se voulait un pont entre les allochtones puis les autochtones. Moi, j'y vois une vertu très pédagogique. Je pense que c'est pour ça que c'est enseigné aussi dans les cours, tu sais, dans les cours de nos enfants, de mes enfants, là. C'est que c'est vraiment un livre qui permet de dire, voici d'où ils sont partis, voici ce qui s'est passé.
Je trouve que c'est tellement clair, tu sais, en fait, c'est que le choc est tellement brutal quand la drave arrive, lorsqu'ils se rendent, ils veulent remonter vers leur territoire de chasse dans la rivière, puis ils peuvent plus. Du jour au lendemain, tu sais. Puis là, toi, depuis 150 pages, t'es là, puis tu lis tranquillement leur vie en symbiose avec la nature, la chasse, tout ça. Puis là, bang, tu sais.
C'est fini.
C'est ça.
Mais je pense
que... Puis là, que tu fais que... comme, OK, je comprends le traumatisme, là, tu sais.
Mais je pense que c'est ça le génie de l'auteur, c'est que tous ses livres sont des vulgarisations de grands moments de l'histoire, t'sais, de la colonisation. Dans le sens que, tu sais, ben là, il y en a d'autres, là, mais l'histoire de l'abattage des chiens, la question de l'itinérance.
Ça, c'est ses autres. Ces autres livres.
Puis il y a la question des pensionnats aussi, des traumatismes dans les pensionnats, la question de l'itinérance à Montréal chez les Autochtones, où on sait que la plus grande population d'Inuit
est à Montréal.
Est à Montréal. Ouais. Fait que,
D'Inuit.
D'Inuit. Bon, d'Inuit. Ouais. Donc, tu sais, il y a quelque chose de vulgarisé, un accompagnement. Puis moi, je pense que ce qui m'a plu, comme je te dis, la scène dont je me souviens le plus, là, c'est la fête quand ils vendent tout, puis qu'ils dépensent parce qu'ils n'ont pas besoin de biens matériels pour continuer de vivre. Puis ça m'a marqué parce que je pense que c'est ça que réussit à faire l'ouvrage. C'est cette espèce d'œuvre utile de nous dire... On peut vivre autrement, on peut avoir d'autres valeurs, on peut avoir d'autres approches du territoire. C'est ça.
Ce que ça m'a amené à me demander, moi, c'est est-ce que ça serait soutenable avec 9 millions de Québécois, Québécoises? Là? C'est possible pour une famille de 15, mettons, qui vont chasser puis qui ont un grand territoire qui leur permet de survivre, mais à la quantité de gens qu'on est rendu, puis j'ai pas envie non plus là, d'adopter du jour au lendemain. De toute façon, je serais pas capable, je survivrais pas, là, mais je m'en, c'était plus de me dire ça peut soutenir une faible population, mais pour un monde industrialisé dans lequel on est avec une population très très importante d'êtres humains,
Non, je pense que la question se pose pas parce que c'est plus ça.
C'est ça, c'est impossible.
Tu sais, je suis même pas capable sur mon. Tu sais, j'ai amené, je me suis dit, OK, on coupe, là, puis est-ce que je peux.
Moi, tu m'enlèves l'Internet, puis je meurs, là.
Non, moi, je suis capable de vivre, mais je suis là, tu sais, l'autre fois, on avait une discussion, tu sais, est-ce que je pourrais vivre de patates dans ma cour? Puis là, il y a quelqu'un qui dit, fais attention, c'est sensible au mildiou. Mais tu sais, non.
Au mildiou.
Tu sais, je peux même pas. Vivre dans mon.
C'est ça qu'il raconte, hein, dans le livre. Almanda fait la référence à son oncle et sa tante là, qui je pense c'est que leur vache je sais pas trop produisait du lait puis que là ça allait moins bien puis elle a un passage où elle dit notre vie tenait à tellement peu de choses là,
ben effectivement
c'est fragile
mais elle gagne en liberté, puis gagne en qualité de vie à ses yeux. Tu sais, c'est plus la misère. Tu sais, pour elle, c'est clair qu'elle, à une époque, la vie qu'elle a choisie était 100 fois mieux que celle qu'on lui promettait par la colonisation, tu sais. Puis encore là, c'est toujours dans mes connaissances. Moi, je les connais, les agriculteurs du lac, tu sais, de génération en génération. Tu sais, il y a une histoire. En tout cas, c'est vraiment imbriqué dans mon histoire. Mais c'est ça. Est-ce que c'est viable à 9 millions, 9 points? Non, je pense pas, mais parce qu'on n'est pas là, puis on occupe le territoire à la gang, là. Il y aurait trois renards, puis il n'y aurait pas le temps de revivre, tu sais. Non, non, on n'est plus là.
Puis les caribous, ils sont tous en train de disparaître.
Puis, tu sais, moi, je l'enseigne souvent. Je dis, l'agriculture industrielle telle qu'on la pratique, la pêche, permet de nourrir 10 milliards d'humains, là. Mais change les pratiques, enlève les pesticides. Si on passe au biologique, ça prend 2,5 fois plus de surface. On y arrivera pas, là. On peut enlever la viande, puis on va peut-être y arriver, mais je veux dire, il y a quelque chose de très, très efficace.
Avec l'épuisement des phosphates et tout, en tout cas, bref.
Ben c'est ça, mais c'est un challenge.
Là. Ça va mal en esprit, là.
Donc, là, sur cette pointe des primes-là, mais tu sais, les modes de vie traditionnels, faut pas tomber, moi, je dirais, faut pas tomber dans le syndrome Avatar, là, pour ceux qui ont vu le film. T'sais, à un moment donné, ça devient comme des modes idéalisés, mais effectivement, utopique pour un petit nombre de personnes.
Oui, oui, puis tu sais, les gens se rendaient à 45 ans, puis ils mouraient, là, tu sais, elle, étonnamment, a vécu jusqu'à 98, là, mais tu sais, on s'entend que c'était une minorité de gens, là. Puis, une des choses aussi qui m'a fait allumer quand tu disais que c'était une passerelle entre le monde autochtone et le monde allochtone, mais je pense que ça a été, pour Michel Jean aussi, une façon de reconnecter avec un passé. Lui-même, qui finalement a été élevé comme un blanc à bien des égards, tu sais, a vécu ce schisme-là en raison des pensionnats, puis je pense que lui-même, ça a été une façon de reconnecter avec ce passé-là, puis ses origines à lui, finalement.
Moi, je pense que oui, effectivement. Là, puis c'est...
As-tu écouté les entrevues de...
Non.
Moi, non, j'ai pas fait mes devoirs, en toute honnêteté.
Ben, à une certaine époque, oui, là, quand il avait sorti le livre, puis qu'on en parlait, tu sais, je veux dire, la réflexion qu'il porte, puis, tu sais, il se fait... un éditeur et un auteur qui cherche à faire le pont. Il est vraiment dans une perspective de réconciliation.
Est-ce qu'on l'accompagne là-dedans, finalement?
Non, c'est ça. Mais aussi de nous avec...
Oui.
Moi, j'ai toujours vu en cet auteur-là quelqu'un qui dit « on est capable de faire des ponts puis on est capable d'apprendre les uns des autres ». Je l'ai toujours senti comme étant...
Profondément humaniste.
Oui, mais là, la question, est-ce que ça parle... Parce que là, ça nous parle à nous, tu sais. Ça nous parle beaucoup à nous, allochtones, mais est-ce que ça parle aux autochtones? Mais tu sais, il est respecté. Moi, j'ai vu... Ben, en fait, je fréquente beaucoup les librairies, puis tu sais, il soutient des ouvrages. Tu sais, fait que je pense que...
Ben, déjà, si ça parle aux allochtones, je veux dire, je comprends que ça, c'est pas tout le... Ça fera pas des miracles, peut-être, mais en même temps, je me dis, si déjà, nous, on a une disposition plus positive à leur égard, tu sais, je pense que ça peut déjà faire partie de la solution, là.
Mais moi, je le vois chez mes enfants. Je le vois une ouverture, je vois une sensibilité, je vois une compréhension. Tu sais, ils sont capables de me dire, hey, il s'est passé des jalons historiques. Il y a une intégration de l'histoire, qui est l'histoire colonialiste.
Colonialiste,
oui, j'ose pas le dire.
Colonialiste. mais c'est intéressant parce que, je sais pas pour toi, mais moi, les pensionnats, j'ai découvert ça, j'étais rendu en médecine à 25 ans, genre 23, 24, là. Parce que moi, dans mes cours d'histoire au secondaire, on m'en a jamais parlé.
Non, mais moi, j'étais encore plus vieille que toi. Moi, j'avais encore les méchants qui scalpaient. Ben, tu sais, mon livre d'histoire, c'est horrible.
Ben, puis au primaire, secondaire, c'était affreux. Puis c'était tout le temps présenté de façon tellement pas intéressante, tu sais. Puis là, tu lis ça, puis tu fais comme, mais mon Dieu, c'était un peuple brillant, intelligent, tellement sage, avec des rapports sociaux bien plus avancés que les Blancs, là, qui traitaient les femmes comme des chameaux. Puis, non, mais tu sais, puis là, tu lis ça, puis tu te dis, mais mon Dieu, quel point on était cons, tu sais, comme... Bref. Non?
Ben, 100% d'accord. Je ne peux qu'être d'accord. Je veux dire, on a tout perdu, là, mais tu sais, c'est ça, puis... Non, on a tout perdu. On s'est privé de quelque chose d'intéressant. Mais, tu sais, encore là, ça, c'est l'histoire qu'on nous a enseignée, mais, tu sais, les trappeurs étant en symbiose, on sait dans l'histoire que, tu sais, il y avait...
Les chasseurs des bois, les coureurs des bois?
Les coureurs des bois, okay. Tu sais, on sait qu'il y avait une coexistence positive de gens qui partageaient le même mode de vie. Là, c'était pas que les Autochtones qui vivaient dans le bois, qui survivaient, qui appréciaient. Tu sais, il y avait une réalité partagée. C'est cette histoire-là qu'on a pu. C'est cette histoire qu'on c'est a perdue.
Des récits de ces gens-là.
Puis, ce qu'on a comme histoire, c'est toujours l'histoire des vainqueurs, puis c'est l'histoire du commerce anglais, là.
Tout à fait. Ben, les missionnaires, en fait, qui étaient les plus en contact aussi après ça avec ces gens-là, mais qui les ont tellement brutalisés, tu sais, puis... comme Siméon, c'était pas leur vrai nom, tu sais.
Ben non.
Atouk, qui était leur vrai patronyme, tu sais. Puis, en tout cas, c'est là que tu vois comme toutes ces couches-là de progressives, puis qui culminent finalement avec la sédentarisation, puis les pensionnats par la suite.
La perte d'identité, la perte de rapport au territoire. On a commencé avec la question du territoire. Mais. Il n'est pas perdu complètement parce que
moi,
c'est une fierté qui est partagée. Là. Maintenant, c'est une fierté partagée. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi de cet ouvrage-là pour avoir vécu dans la région. C'est que je sais
du lac Saint-Jean. De Pequakami.
Oui, du lac Saint-Jean ou de Pequakami. Je sais que les Allochtones ont le même amour du territoire. Maintenant, tu sais, il y a des camps de chasse, il y a encore ce rapport au territoire qui existe, qui est partagé. Il y a vraiment là, moi je l'ai vu, tu sais, puis quand on parle de d'immense projet d'éolienne en ce moment, tu sais, puis c'est le droit de traverser, mais autant des Autochtones que des Allochtones qui est menacé, ce rapport au territoire là est enchâssé. Fait que c'est pas si hermétique que ça, tu sais, il y a vraiment quelque chose de je pense qu'ils ont appris implicitement les uns les autres. C'est pas une communauté qui va mal non plus.
Ben, c'est sûr, je suis jamais allé à Mastoyage. Mettons, par rapport à Pequakami, c'est où, mettons?
C'est à 10 km de Roberval.
OK, c'est vrai, on le décrit. T'as bien raison, on le décrit dans le livre. Comme,
ben, c'est après la côte. Je sais pas comment le dire, là, mais c'est après la côte, je veux dire à droite.
Je sais où, c'est vous. Non, mais je suis capable de le placer.
C'est même 5 minutes la pointe de Roberval. C'est
une communauté qui va bien quand même.
Ben, qui va bien.
Ben, on s'entend. Je veux dire, il y a des. Oui.
Il
y a des éléments de difficulté dans plusieurs communautés.
C'est ça, mais c'est. D'un point
de vue
social. Moi, j'ai senti des gens fiers, j'ai senti des gens qui. Tu sais, on est dans. Un peu comme, tu sais, il y a d'autres communautés collées sur les villes au Québec, puis tu sais, ils sont intégrés. Il y a une mutualité. Tu sais, c'est pas parfait, mais il y a une mutualité.
Puis il y a un niveau de dynamisme qui est franchement rafraîchissant de plus en plus, je trouve, dans les communautés. On voit des gens qui deviennent porte-parole, puis par exemple, je suis allé à un spectacle récemment. C'était un spectacle. Hey boy. C'était un salon des livres autochtones, en fait, publiés par des autochtones. Puis il y avait une soirée queer, spectacle donné par des artistes queer autochtones. Tu sais. Puis, oh mon Dieu, c'était incroyable la richesse de ce qui était présenté, tu sais, puis la puissance aussi de leur message, puis vraiment c'était comme ah, tu sais, c'est le fun de voir qu'il y a cette reprise du discours puis du pouvoir puis c'est ça, puis qui contraste complètement avec peut-être la paralysie puis le choc qu'il y a eu au début avec tous les traumatismes qu'ils ont vécu de la part des colons, tu sais, puis en tout cas, franchement, c'était très beau à voir. Ouais.
Mais c'est ça. Mais je pense que si on revient au livre, c'est vraiment cette œuvre utile-là qu'il fait, cette tentative d'appropriation mutuelle d'une culture, d'un contexte, comprendre, t'sais, aussi nous aider à comprendre. On est dans cette vérité-réconciliation. Donc, tu sais, la vérité, mais la réconciliation. Puis moi, j'y ai retrouvé des ancrages qui peuvent parler à n'importe qui. Je suis pas sûre que les oncles et tantes de mon chum ont lu ça, mais...
Non? OK.
Non, je pense pas.
En tout cas, sur le livre que j'ai acheté il y a très, très récemment, ça dit plus de 300 000 exemplaires.
À partir du moment où c'est une lecture collégiale, tu sais.
Je vois que c'est beaucoup de livres, ça. Mais en tout cas, tant mieux si les étudiants et étudiantes du cégep le lisent. Là.
Ben même les étudiantes et étudiants au secondaire, là, quand même, là, c'est intéressant. Moi, je voulais revenir sur le titre de Cocoum.
Oui.
T'sais, l'Université Laval est aussi dans les processus de réconciliation. Et on a notre cocoum à l'Université Laval, qui est Michel Audette, qui tu sais, qui... C'était la responsable de la réconciliation, okay. Puis qui est la sénatrice, mais qui se faisait appeler cocoum par ses collègues.
Ah oui?
Oui, puis c'est une vraie grand-mère, là. Elle est une vraie cocoum, mais ce côté enveloppant de la grand-mère, ce côté... tu sais, il y a...
Chaleureux.
Chaleureux, puis tu sais, Michel Audette s'identifie aussi comme
attentionné.
Ça. Attentionné. Ouais. Oui, mais s'identifie aussi parce qu'elle a des petits-enfants.
Elle est de quelle nation?
Elle est de la Côte-Nord, si je me souviens bien, mais là, je
possiblement Innu, ouais.
Elle est Innu, okay, oui, ça, okay, c'est okay. Clair. Ça, c'est clair. Okay. Ça, c'est acquis, puis elle fait les... Tu sais, on voit, c'est monté au Nord, c'est monté dans la nature, tout ça. Fait qu'il y a aussi une recherche identitaire puis un retour à la nature dont j'ai la chance... je peux partager, elle partage ça sur Facebook, c'est pas une personnalité publique, mais elle nous partage les perles, elle nous partage les pèlerinages l'été avec sa famille, tu sais, dans la nature. Il y a quelque chose de très, très beau, et elle est une cocoum. Et donc, tu sais, j'ai pu comprendre à la fois, tu sais, il y a un rapport aussi à comment les aînés ont un savoir qui peut...
Tellement différent de la façon qu'on traite nos propres personnes aînées au Québec.
Mais ça aussi, c'est l'héritage du livre, c'est l'apprentissage, c'est l'enseignement de la grand-mère, tu sais, vers ses enfants, ses petits-enfants. Ben, en fait, elle n'est pas grand-mère quand c'est ses enfants, mais il y a quelque chose, quelque chose d'enveloppant, puis que j'ai retrouvé en découvrant Michel Audette aussi là, sur cette, notre cocoum à l'université où je travaille. Fait qu'il y a quelque chose de, j'ai beaucoup aimé faire le parallèle entre le discours contemporain de Michel Audette puis le discours découvert à travers ce livre-là. Fait que ça, je voulais en... c'était comme une pensée que j'avais, là. Toi, tu notes plein de choses.
Je note parce qu'on des fois, on débute des idées, puis j'avais des choses à ajouter, mais c'est juste parce que c'est ça, j'ai tellement le cerveau...
On fait dur en ce moment, on est fatigués tous les deux.
Les gens vont nous suivre, là. C'est leur problème.
Là, on est typique balado.
À date, on a à peu près... Je pense que... Je sais pas trop, le nombre d'écoutes puis le nombre d'auditeurs, c'est pas tout le temps clair, là, mais oh là là, on franchit même pas les trois chiffres, là, fait que... on salue les 12 personnes qui nous écoutent.
Ouais, non, ça va bien.
Mais non, en fait, deux choses. Je trouve que le progrès est un personnage dans ce livre-là, puis on y réfère à de nombreuses reprises.
Drôlement perturbateur.
Ouais, c'est ça, parce qu'on n'arrête pas de leur dire, puis un peu en fait, on n'arrête pas de tenter de convaincre les Innus que leur mode de vie doit être abandonné en raison du progrès, comme sur la base du progrès, ils devraient adopter finalement le mode de vie occidental, mais ça revient avec les mêmes conversations qu'on avait dit, mais vraiment la notion de progrès, c'était vraiment quelque chose que je me dis, c'est quoi finalement, tu sais, je trouve que le livre nous amène à nous questionner, c'est quoi progresser, tu sais, finalement, comme société, puis comme
race humaine. Mais c'est comme moi, t'sais. J'ai trouvé que le progrès était futile, puis tu sais, on est peut-être passé à côté de quelque chose.
Ben, là. C'est ça. En même temps, on est comme tellement rendu loin de ça, tu sais, qu'il est comme... C'est comme si on est pris maintenant dans ce monde-là, tu sais. Ben, en fait, on est né dedans, là, tu sais, toi puis moi, mais puis lui puis Michel Jean aussi, en fait, là, mais... C'est ça, encore une fois, mais je trouvais que c'était intéressant de la façon que tu en parlais comme une façon idéalisée de le voir, tu sais. Est-ce que, tu sais, il nous épargne toute la dureté du mode de vie, finalement, puis qu'il y avait plein de drames, puis... C'est comme s'il nous présentait le mode de vie nomade aussi comme un mode de vie sans conflit, tu sais, jusqu'à un certain point, tu sais, y avait-tu parfois de la violence, tu sais, c'était quelque chose qui est pas clair en fait, ça m'amenait des questionnements, peut-être que c'est le cas,
ouais,
là,
mais... ben quand moi en fait la misère des colons, ça c'est décrit dans toutes les livres d'histoire, puis tu sais, c'était vraiment horrible.
Tout à fait.
Et à une certaine époque, je pense que ça avait pas de bon sens, tu sais, cette sédentarisation forcée dans des milieux, et là je reprends l'adjectif très hostile, là, de roches, de cailloux, de sable et de schnout.
Puis, on décrit qu'ils tentent de devenir des agriculteurs, tu sais, des Innus qui ont été nomades toute leur vie, tu sais, puis là, tu sais, c'est comme cultiver la terre, tu sais, c'est tellement pas...
Mais pourtant, il y en avait qui cultivaient la terre, là, tu sais, okay. Les Wendat cultivaient...
Oui, mais c'était des peuples sédentaires, là,
c'est ça.
Versus les Innus, qui, en tout cas, de ma compréhension, qui étaient nomades. Là.
Mais c'est ça, mais non, pour en revenir, il y a une époque où les les Autochtones, les Innus n'avaient rien à envier aux colons. Ça faisait pas de sens, cette vie-là. Cette vie-là n'avait aucun sens. C'est juste que ça a changé sur un...
C'est ça.
Sur un flux. Comme tu dis, le temps s'accélère. Mais ouais. Ça a changé à une vitesse folle. Là. Puis ils ont... Le temps s'est accéléré. T'as raison, là, tu l'as dit tantôt, puis on est vraiment dans cette bascule-là.
Puis la narration aussi, c'est, en tout cas, c'est vrai, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de ce point de vue-là. Puis en fait, l'autre affaire que je m'étais notée, c'était comment tu avais trouvé le style, justement, de l'auteur dans son écriture?
Alors, je vais te dire de quoi. C'est fantastique, c'est facile à lire, c'est clair, c'est limpide, c'est absolument pas alambiqué, c'est très descriptif, c'est des phrases courte, tu sais, c'est un...
Chapitre court.
C'est une lecture qui nous porte... ça se lit rapidement et facilement.
Mais tu vois, tu m'avais dit 3 heures, ça m'a pris pas mal plus que ça, moi, le lire. Ouais. Mais je lis lentement, moi,
okay. Non, mais ouais. Peut-être pour ça que j'ai oublié les 50 dernières pages aussi. mais c'est... Mais moi, je fais juste ça, lire à longueur de journée. À un moment donné, je deviens bonne, là. Mais tu sais, c'est la... Il y a une efficacité... d'écriture. Puis il y a beaucoup d'auteurs québécois et d'autrices québécoises qui ont cette efficacité d'écriture. Hein. On a comme deux... Tu sais, on a deux vagues au Québec, là. On a la vague, là...
Kev Lambert, que c'est comme des phrases qui finissent pas de finir.
Non, là. Non, mais ça m'aide à m'endormir le soir, c'est parfait. Mais je veux dire, on a cette... qui vient
d'ailleurs de Roberval, on le salue, hein? Ou en tout cas de la région.
Oui, oui. Mais on a donc ces auteurs qui ont un style, tu sais, qui versent dans la poésie, mais dans la, tu sais, qui essaient de transcender.
Oui, notre dernier livre, c'était Sébastien Dulude, Amiante, on est complètement ailleurs.
C'est ça. Alors que là, on est dans une prose très descriptive, simple. Mais moi, je pense que c'est l'idée aussi. Si tu veux vulgariser, il faut que tu sois accessible. Ici, il y a un effort. Je me suis posé la question... Tu veux m'interrompre, mais vas-y.
Ben, en fait, c'est que je me suis demandé aussi si ça représentait peut-être le mode d'expression de certains, d'une culture, de certains peuples autochtones, qu'on est moins dans l'espèce de sur-émotionnalité des Blancs, tu sais.
Ouais. Ben, je lis, tu sais, j'essaie de lire plus autochtone. Ouais. J'essaie de me sensibiliser, puis je retrouve cette simplicité descriptive-là dans beaucoup d'ouvrages. Tu sais, on est à dire dans une langue qui n'est pas la nôtre, donc on le dit simplement et clairement.
Tout à fait.
Et donc, j'ai retrouvé ça, mais j'ai trouvé... Tu sais, en fait, j'ai les... Tu sais, Naomi... Fontaine, je pense que c'est ça. Tu sais, c'est d'une simplicité aussi très... C'est très criant de vérité, mais sujet, verbe, complément, là. Puis, tu sais, c'est très descriptif, puis il n'y a pas d'hésitation, puis les émotions sont brutes, là. On est très, tu sais, j'étais là, j'étais comme ça, je suis là, je suis comme ça. Et on retrouve la même écriture. Je me suis demandé si c'était parce que c'était une appropriation puis une intégration dans la littérature. Il y a peut-être une évolution aussi, là. Puis là, je commence à basculer, là. Je suis vraiment la pire des commentatrices de balado sur la littérature, parce que là, je commence à voir une bascule. Dans les traductions, dans la littérature autochtone traduite, là, parce qu'il y en a beaucoup en Colombie-Britannique, il y a un petit peu plus de poésie, de prose complexe, il y a un peu plus d'allusions, un peu, tu sais, il faut deviner, savoir lire entre les lignes, que j'ai pas encore retrouvé, mais j'en ai pas lu tant que ça. Mais là, quand j'ai acheté au Grand Marché, il y avait une table d'une maison d'édition autochtone, puis j'ai acheté. Puis un des 3 livres que j'ai lus, j'ai fait « Oh! On n'est plus dans cette espèce de descriptif narratif. » Tu sais, genre, j'ai quelque chose à vous dire, là, puis c'est carré. Tu sais, carré, c'est pas carré, mais c'est simple.
Non, puis Michel Jean, quand même, ben, je comprends ce que tu dis par rapport à la langue, mais c'est sûr que lui, il était élevé en français malgré tout. Puis Linou Aïmoum, je sais pas s'il le parle, mais je pense pas, non, c'est ça.
Ben, il dit dans le livre que...
Ça s'est comme perdu, c'est ça. Mais je comprends, par contre, que ça peut être un choix aussi, tu sais, puis ne serait-ce que... c'est le premier contact entre Almanda puis Thomas. C'est comme... Je l'ai regardé, puis là, c'est... Attends, j'ai l'extrait quelque part. C'est page 21. « Nos regards se sont croisés, il n'a pas souri, et je n'ai pas eu peur. » Point. Puis là, tu fais comme... OK. Tout de suite, ils sont dans le silence, les deux. Mais ils sont bien, tu sais. Puis tu comprends comme tout... Tu sais, dans nos modes d'expression occidentales, il aurait fallu absolument... occidentaux, pardon. Il aurait fallu absolument parler, tu sais, puis échanger des phrases et tout. Puis alors que là, c'est juste... On se regarde en silence, puis il y a des messages qui se passent sans même qu'il y ait de nécessité d'échanger des paroles, tu sais.
Là, je cherchais, c'est ça, c'est Naomi Fontaine.
Tu l'as lu?
Non, je cherchais le nom de tantôt.
Je pensais que tu l'avais lu
peut-être Non, je l'ai pas lu. Celui-là, je l'ai lu papier, parce que je l'avais déjà papier, ouais. Puisque il a fait...
Tu l'as lu en quelle année, la première fois?
Il y a 4-5
okay, ans. OK, fait qu'au moment de sa publication, ou presque.
Non, j'ai lu pendant la pandémie. Okay. C'était pendant la pandémie.
Peu de temps, quand même, après.
C'est à un moment donné, on avait besoin. Mais c'est ça, mais cette... efficacité que tu viens de décrire, c'est ça que j'ai retrouvé. Ouais. Puis, tu sais, ben en fait, je cherchais Naomi Fontaine, puis j'avais l'impression que je l'avais débaptisée. Fait que je voulais juste être sûre que je l'avais pas, je me sentais mal. Mais donc, non, puis elle aussi écrit avec cette même efficacité-là. Il y a quelque chose dans l'écriture, mais à suivre. C'est peut-être parce que. Est-ce que c'est une question culturelle, parce que ça se vit comme ça, ou est-ce que c'est, tu sais, on est à débuter, le, on débroussaille une nouvelle littérature, c'est émergent, là, et donc on n'a pas besoin de tous les fla-fla pour dire nous sommes dignes de la grande langue française.
Mon Dieu, tu sais, en tout cas, c'est... Moi, je pense que c'est tout l'inverse, je pense que, tu sais, pour faire de la grande littérature, il faut juste être soi-même, tu sais, puis je pense que là-dessus, c'est vraiment
réussi. Mais c'est de la belle écriture, comme tout je te dis, moi, puis c'était fluide, là, c'est... Puis, fluide et descriptif à la fois.
Il y a quelques petites choses, personnellement, moi. Il y a juste eu, à quelques endroits, des passages où, par exemple, il décrivait la perception d'Almanda de Thomas. Elle disait, tu sais, maintenant, il amène des outardes au début, là, tu sais, puis il en fait cadeau, puis là, il écrit, par exemple, « Cela démontrait la grande générosité de Thomas ». Puis moi, ça, ces espèces de phrases-là dans les livres, ça m'énerve tout le temps, parce que je me dis, si tu veux me montrer que le personnage est généreux, fais juste me montrer qu'il est généreux, puis je vais être capable. Les fils vont se toucher dans ma tête pour faire ces... Fait qu'il y a eu à quelques endroits ça, mais c'est peut-être la seule chose, parce que le reste, je suis d'accord avec toi, puis je trouvais que c'était...
Ouais, moi, je lui ai pardonné. Effectivement, oui, t'as raison. Ben, c'est ça. En fait, c'est drôle, parce que moi, j'ai aucun talent pour l'écriture, puis je trouve que ma plus jeune a un talent extraordinaire, mais c'est parce qu'elle n'explique rien. Elle ne fait que d'écrire. Mm. Donc, elle a des textes qui sont fantastiques. Et ça, c'est un talent. Je pense que Michel Jean l'a.
Oh, non,
je veux dire, on va y pardonner.
Indéniable, c'est indéniable.
On va pardonner. Puis, oui. Moi, je vais dire, c'est peut-être une erreur que laisser passer son éditeur.
Tout à fait.
Parce que d'habitude, l'éditeur va corriger ça, va c'est voir ça. Tu sais, des fois, il y a des petits resserrements.
Non, c'est ça. Parce que ma comparaison avec ça, en fait, peut-être le moment, depuis le début du podcast, où j'ai vraiment chialé là-dessus, c'était lors des Chevaliers d'Émeraude. On est pas du tout au même endroit que les Chevaliers d'Émeraude. Cocoum est de très, 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 très loin meilleur. Là. Je veux que ça soit clair, tout ça. Mais je le mentionne pas quand même.
Oui, non, c'est un très bon...
Autre chose, c'est
un livre facile, tu sais. C'est un livre qui fait le pont, on l'a dit tantôt, hein, qui fait le pont entre des cultures, entre des époques, dans une tradition. Je pense que c'est un livre qui décrit très bien le territoire. Je pense qu'il faut, tu sais, à nos 13 auditeurs qui pourraient avoir le goût d'aller au lac Saint-Jean ou au Pied-Kagami, c'est le temps de... Tu sais, il faut lire ce livre-là parce qu'on va voir le territoire autrement.
Ça donne envie d'y aller, hein?
Mais moi, j'ai compris la fierté de mon chum.
Ouais.
Puis ça, c'est quelque chose qui est partagé. Tu sais, quand on dit qu'il faut bâtir sur nos points communs, hey, tu sors pas le lac Saint-Jean ou le Pied-Kagami d'un Janois ou d'un Innu. Il n'y a aucune chance, là.
Puis dirais-tu que c'est ça, ce rapport-là, au Québec, on l'a peut-être jamais eu ou perdu ou est-ce qu'on fait vivre notre territoire tant que ça dans notre littérature, dans nos éléments de culture, puis on est tout le temps là à chialer qu'on déteste l'hiver, tu sais, puis
moi je pense que c'est un mythe, le territoire, pour le, tu sais, ceux qui habitent la vallée du Saint-Laurent, là. Je pense qu'effectivement, ben tu sais, on a le mythe, puis on a, tu sais, le plein air, la nature, tu sais, il y a un rapport, mais
ben Instagram, mais... là, tu sais, mais non, mais tu sais, c'est devenu ça finalement, là, la rando,
bon, ça, c'est récent, mais les chasseurs des régions, là, ils l'ont, ce rapport au territoire, ils le connaissent. Il y a des... Moi,
mais t'écoutes les documentaires de Richard Desjardins, là, True Story, puis L'erreur boréale, puis tu vois ça aller, puis tu dis, mais voyons donc, tabarnak,
on a un problème de gestion de
territoire. Parle de ressources naturelles, oui, c'est ça.
Moi, j'ai des amis forestiers, là, tu sais, les ingénieurs de la forêt, puis ils nous ont, ce qu'on fait de notre forêt, puis la façon dont on l'exploite, je veux dire, ça n'a rien de durable, puis c'est plein d'errants, puis on recule, puis c'est juste une ressource à brûler, entre guillemets, ou ben là, elle va brûler à cause des changements climatiques, mais oui. c'est
elle brûle c'est déjà, pas, en fait.
Tu sais, puis moi, mais j'étais en Gaspésie l'année dernière à Carleton, puis il y avait un homme qui m'expliquait que, tu sais, on a tout planté des espèces alors qu'on avait les plus belles espèces pour faire du bois solide, mais que, tu sais, il y a des gens qui ont pensé rentabilité, puis sont mis à planter des conifères qui n'ont pas de valeur ajoutée comme bois. Fait que, tu sais, on a beaucoup réduit notre territoire à certaines formes de ressources, puis on a oublié de la valoriser. On a, tu sais, il y a quand même des gens dans l'industrie de la forêt, là, puis là, je veux vraiment...
Mais je pense que ça s'améliore, là.
C'est qui tente de faire de la valeur ajoutée, qui tente de diminuer l'exploitation du territoire pour augmenter la diversification des produits, là, pas juste une planche de plywood qu'on envoie. Donc, tu sais, je pense qu'il y a un travail, mais effectivement...
Puis, la forêt nourricière, on est tout arrivé avec nos espèces européennes, tu sais, puis... Tous les petits fruits, la végétation qui pouvait être comestible, qui pouvait être apprêtée, qui pouvait... Ben, en tout cas, je pense qu'il y a un mouvement de retour vers ça, là, tu sais, mais la mélanchier, l'argousier, l'aronia, plein de plantes, tu sais, qui donnaient des fruits qu'on pouvait consommer, tu sais, puis on est juste arrivé avec des fraises, puis je sais pas, des framboises, puis des bleuets. Je pense que ça, par contre, il y en avait, là, mais...
Mais tu sais, oui, on fera pas l'histoire.
Non,
mais
effectivement.
On est, je pense, invité à justement reconnecter avec ce territoire-là, puis c'est un beau livre pour nous aider à reconnecter, à le recomprendre, à dire qu'il était possible de vivre dans le territoire, pas à 9,5 millions. On est d'accord, là, on va plus, là. Mais moi, ça m'a fait réfléchir sur mon rapport au monde. Moi, la scène d'été... Tout le monde, c'est à la plage où ils ont été payés, puis tu sais. Puis là, tu.
Profite de la vie, là.
Ah, oh, c'est beau, là. Moi, en tout cas, pendant la pandémie, je trouvais ça très, très beau.
Alors qu'on
puis je l'ai relu cette semaine, puis c'est encore une phrase qui me touche, c'est encore une phrase qui vient me chercher en disant ouais, il faut ralentir, là. Il y a quelque chose dans le progrès, là.
Puis la pandémie, c'est pas justement la démonstration des conséquences de ce progrès-là, tu sais, puis...
Mais on a eu une occasion de ralentir, puis on est reparti, là, on n'a pas arrêté, là.
Puis on est même parti plus vite qu'on était, là. On est rendu plus vite qu'on était autrefois.
C'est ça, en tout cas, faut falloir lire du Michel Jean un petit peu plus souvent, là. Fait que... Mais...
Peut-être on l'enverra à Donald Trump.
Mais, tu sais, j'ai pas beaucoup à dire sur l'œuvre. Je pense qu'on a fait le tour très rapidement par rapport à ce qu'on jase d'habitude, mais... Je pense qu'il faut juste... C'est un roman d'entrée, entre guillemets. T'sais, on entre dans quelque chose, puis c'est une promesse d'aller découvrir d'autres choses.
Puis faut tout à fait. Moi, ça m'a vraiment donné envie de lire davantage d'auteurs autochtones. Là. Puis là-dessus, en tout cas, si c'était le but de Michel Jean, c'est vraiment une mission réussie. Là. Oui, effectivement. Moi aussi, j'ai le sentiment qu'on en a parlé vite. C'est peut-être quelque chose aussi qu'il faut plus... se laisser imprégner, puis c'est dur de transmettre ça à travers nos discussions de podcast, puis de grâce, si vous ne l'avez pas lu, garochez-vous, puis...
Bon, vous ne le ferez pas en 3 heures comme moi, mais vous le ferez un petit peu plus longtemps.
6 heures comme moi, puis... Ouais,
c'est donc pas long, là. Je veux dire, il faut comprendre que c'est lu en une semaine.
Si vous êtes un enfant au cégep, un enfant, en tout cas, un jeune adulte au cégep, ben tant mieux, vous allez être obligé de le lire.
Il existe en version audio, parce que moi, j'ai une fille avec un handicap, fait que... Puis il existe
sur audio de Radio-Can?
Je sais pas où elle l'a obtenu, mais elle l'a eu en version audio, là. Donc, il est déjà adapté en version audio, là.
Est-ce que c'est Michel Jean qui le lit?
Non, je pense pas. On me l'aurait dit. Mais, tu sais, là, grosse affirmation de fille qui sait pas de quoi elle parle. Mais, tu sais, il y a quelque chose... Mais, donc, il existe en...
En audio.
En audio. Ouais. Fait que, super. C'est ça, à lire. À lire ou à entendre.
Mais merci, Isabelle.
Ça m'a fait plaisir.